14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
And then train is coming. Then at the first car.
Le métro arrive et dans le premier wagon, je vois un journal enroulé autour d'un sac plastique. J'ai failli marcher dessus. Il y avait un homme à côté du sac, les yeux fermés. Et puis d'un coup, il a commencé à avoir des convulsions.
The guy was like shaking his body.
Bonjour, 13 morts officiellement retenus, des milliers de blessés, mais sans doute une cinquantaine de meurtres, peut-être 100. À l'origine de cette dérive criminelle, un gourou japonais aveugle qui avait décidé de devenir le maître du monde en prônant la terreur dans tout le pays. Des milliers de disciples vont ainsi se rallier aux préceptes de ce leader maléfique, le chevelu et barbu Shoko Asahara. Pendant 10 ans, cet homme va ainsi étudier le meilleur moyen de créer une apocalypse chimique. Les virus, les bactéries, le poison, seuls ses adeptes seraient appelés à survivre. Un village et le métro de Tokyo seront ainsi noyés dans un nuage de gaz sarin. C'est cette histoire, celle de la secte Aum, vérité suprême, et de son maître à penser que je vous raconte aujourd'hui. Comment Aum a-t-elle pu devenir si puissante sans se faire remarquer? Et pourquoi la plupart de ces crimes sont restés impunis? L'organisation est-elle en train de renaître? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la secte Aum au Japon et Shoko Asahara, son fanatique maître à penser. Celui-ci est depuis longtemps dans le collimateur de la police nippone qui ne le voyait pas comme un tueur de masse jusqu'à cette belle matinée du printemps 1995 dans les sous-sols de Tokyo. Ce 20 mars 1995, à 7h48 du matin, un homme en costume gris, similaire à des dizaines d'autres costumes gris, s'engouffre dans une rame du métro de Tokyo, bondée à 7h de pointe. Personne n'a remarqué les deux petits sachets en plastique remplis d'un liquide visqueux qu'il dissimule dans un journal. Juste avant d'arriver à la station qui dessert le centre d'affaires de Chiyoda, l'un des plus importants de la capitale, il laisse glisser au sol les petits sacs. Il les crève avec la pointe spécialement aiguisée d'un parapluie. Le liquide se répand, l'homme sort tout de suite de la rame. Au même moment, sur 4 autres lignes du métro, 4 individus en costume gris et serrant contre eux un journal exécutent le même scénario. Un complice les dépose à une station puis les récupère à une autre. Entre-temps, ils ont crevé les sacs avec leurs parapluies effilés. Le poison en question est un gaz mortel, un gaz de combat, du gaz sarin, mis au point par un ingénieur chimiste et membre fanatisé de la secte Aum. Les porteurs de sacs, parfois déguisés avec des perruques, réussissent plus ou moins leur périlleuse mission. L'un d'eux ne parvient pas à percer l'une des poches qu'il abandonne sur une banquette. Un autre est éclaboussé par le liquide mortel. Il commence à étouffer quand il sort du métro, sauvé par son complice qui lui injecte de l'atropine, un puissant contrepoison et décontractant. Alors que les 10 hommes se fondent dans la nature, il est prévu qu'à 8h20, il retrouve Asahara, le gourou de Aum, pour lui raconter l'opération. Des centaines, puis des milliers de passagers commencent à tousser, à suffoquer, puis à s'écrouler dans les rames et sur les quais. Des personnes qui ressentent de fortes nausées, des douleurs insupportables aux yeux. Dans la panique, 2 employés du métro ont repéré un sac d'où s'écoule un liquide nocif qui imbibe un journal. Ils balancent ce paquet toxique sur la voie. Ils ne survivront pas. Des passagers inconscients sont allongés sur les quais, en proie à des tremblements, à des contractions musculaires. Les médecins ne savent pas quelle est la nature du poison qui frappe les victimes. Un établissement de Tokyo, l'hôpital Saint-Luc, est réquisitionné pour accueillir les blessés. Des milliers de doses d'atropine, un antidote utilisé dans les exploitations agricoles contre les empoisonnements aux pesticides, sont rassemblés. Le bilan définitif est le suivant. 13 morts, 6252 blessés, dont 1124 qui resteront handicapés à vie. Le 28 mars, 8 jours après l'attaque, le chef de la police de Tokyo fait publiquement part des soupçons qui pèsent sur une secte, la secte Aum, et son chef de file Asahara, alors âgé de 40 ans. Les forces de l'ordre s'apprêtaient à perquisitionner une de ses propriétés. 2 jours après cette déclaration, le chef de la police est touché par 3 balles de pistolet à la poitrine. Il restera de longues semaines dans le coma. Un adepte de la secte est le tireur. Le gourou, lui, reste introuvable. 1 mois et demi plus tard, le 5 mai, un gazage massif est évité à la gare de Yokohama. Le 15 mai, Asahara est enfin localisé. Il se cache dans une propriété que possède la secte au pied du mont Fuji, le complexe numéro 6. 2000 militaires et policiers équipés de masques et de combinaisons sont mobilisés. Ils lâchent des dizaines de canaris pour voir si aucun des oiseaux ne succombe à l'approche du bâtiment. Des adeptes se rendent sans résistance. Il faut 4 heures pour débusquer le gourou retranché dans un bunker, protégé par des portes blindées découpées au chalumeau. Azahara les attend, tout sourire dans sa toge de couleur violette. L'air du bunker est pestilentiel. L'homme indique qu'il ne se lavait plus depuis plusieurs semaines. Azahara, le gourou, baba cool, mais surtout ennemi public numéro 1 au Japon, est sous les verrous et pas prêt d'en sortir. Ces 10 dernières années, il avait bâti en toute impunité un empire puissant au sein duquel les exécutions, meurtres et disparitions en tout genre se sont multipliées. Shoko Azahara, cheveux longs, barbu, est écroué dans la prison de haute sécurité de Kosuge, l'établissement où sera détenu plus de 20 ans plus tard le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Azahara, quasiment aveugle depuis la naissance, il n'a qu'un dixième à l'œil droit, garde poliment le silence. Le monde entier découvre alors le parcours mystique et effrayant d'un assassin. Avant de devenir un gourou maléfique, Azahara avait étudié la médecine chinoise et l'acupuncture. À 23 ans, il se marie à Tomoko, jeune fille de son âge qui assistera impuissante à sa dérive criminelle. Les affaires prospèrent jusqu'à ce qu'il soit poursuivi pour exercice illégal de la médecine. La découverte de l'ésotérisme, la lecture des prophéties apocalyptiques et des textes de Nostradamus le fascinent. Il se met alors dans la peau du guide qui pourra condamner les impurs et sauver ses seuls disciples. En ce début des années 80, la secte Aum n'est officiellement qu'une école de yoga. Azahara, son gourou autoritaire, y impose le jeûne, le dépouillement, l'abandon de tout au profit de son message. L'argent afflue, les disciples se multiplient. En juillet 1987, le gourou Daoum, visage rond et sourire éclatant, a installé son organisation à Shibuya. Il peut compter sur des hommes et des femmes envoûtés. Azahara est le guide tout-puissant, il est interdit de le contredire. Les adeptes travaillent pour lui 20 heures par jour, sont privés de sommeil et de nourriture, interdits de mariage, alors que Azahara a toute latitude, lui, pour choisir des maîtresses. Après un an d'existence, deux premiers adeptes, moins dociles que les autres, disparaissent du jour au lendemain, discrètement assassinés sur ordre du maître, leurs cendres dispersées dans la montagne. Aucune plainte n'est déposée. Un an plus tard, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1989, à 3h du matin, un commando d'Aum entre dans la maison de l'avocat Sakamoto Tsutsumi. Celui-ci défend des anciens adeptes qui dénoncent les abus de la secte. L'avocat est frappé à la tête à coups de marteau. Son épouse, elle aussi, est frappée. Le fils du couple, 14 mois seulement, reçoit une injection fatale de chlorure de potassium. La maison est nettoyée, les draps emportés, la famille achevée avec une substance chimique dans une friche industrielle, les dents cassées pour éviter toute identification. Il faudra un an pour que la police retrouve les restes de la famille de l'avocat. Début des années 90, Aum, protégé par son statut d'église, compte plus de 10 000 adeptes. Tous obéissants et voués corps et âme à leur gourou. La secte a essaimé en Russie où elle rassemble là-bas 30 000 sympathisants. Aum multiplie les investissements, immeubles, terrains, entrepôts. Le maître à penser, protégé par une garde personnelle et une poignée de disciples fanatisés, continue à faire régner la terreur. Les règlements de compte et les assassinats sont entourés de la plus grande discrétion mais se poursuivent de plus belle. Le pharmacien de la secte qui avait autorisé une adepte à se faire soigner dans un hôpital est abattu. C'est la propre fille de la patiente malade qui l'a tuée sur ordre du tout-puissant Azahara. Deux autres adeptes capturent, elles, leur propre père, un riche restaurateur, pour qu'il lègue sa fortune à Aum. L'homme va passer 5 mois séquestré dans une cave, soumis à un lavage de cerveau, contraint d'écouter jour et nuit les prêches du gourou. Il fera semblant d'être fanatisé et parviendra à se rendre dans un poste de police pour déposer plainte. Mais seules ces deux filles seront condamnées. L'avocat de la secte, très influent, ayant réussi à présenter cette affaire comme un simple règlement de compte familial. L'enquête sur les activités de Shoko Asahara va durer des mois et le procès qui s'annonce, quelques années. L'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo révèle que la secte cachait en fait l'un des laboratoires les plus sophistiqués qui soit, destiné à semer la mort chimique. 5 ans avant la tragédie du métro de Tokyo, Asahara achète une grande propriété près de Tokyo. Il y installe une espèce de laboratoire, une fabrique de poisons mortels animée par des adeptes diplômés de chimie et de biologie. Ces experts travaillent sur une toxine botulique. Il est alors prévu de pulvériser ce botulinum mortel aux abords du Parlement japonais, près d'une base américaine de Yokohama, ainsi que dans l'enceinte de l'aéroport international de Narita. 3 camionnettes agricoles sont utilisées, mais le nuage, trop faible, ne parvient pas à tuer qui que ce soit, juste suffisant pour provoquer de brèves nausées. Asahara poursuit sa quête du poison ultime. Il envoie ainsi certains de ses scientifiques en Amérique du Sud et en Afrique pour importer des virus. Sur ce dernier continent, une équipe est envoyée dans le cadre d'une mission humanitaire. Officiellement, elle s'occupe des malades du virus Ebola. En réalité, elle effectue des transfusions sanguines. Le virus Ebola sera ainsi transporté jusqu'au Japon, mais il ne pourra pas être exploité. Le gourou Daoum va dans le même temps acquérir une vaste exploitation en Australie pour y conduire les tests de gaz sarin sur des moutons. Des dizaines de cadavres d'animaux et des cuves de sarin ne seront découverts que des années plus tard par les autorités locales. En 1992, le gourou Daoum, bien décidé à organiser sa propre apocalypse, a même pensé à un arsenal plus conventionnel. Des adeptes russes l'aident à installer au Japon une discrète fabrique de fusils Kalachnikov. Tout comme les laboratoires de chimie, la police semble tout ignorer de cette activité. Une chaîne de production est installée, mais les pièces reçues pour fabriquer les armes sont presque toutes défectueuses. Asahara va toutefois continuer à importer des armes et du matériel militaire depuis la Russie. 8 jours après son arrestation dans le bunker du mont Fuji, la police découvrira un hélicoptère russe Mi-17 chargé de 1000 litres de gaz sarin et 2 petits avions téléguidés destinés eux aussi à larguer des cartouches de ce poison mortel. Le procès proprement dit du gourou et de ses adeptes va être l'occasion de démonter tous les mécanismes de l'organisation. Un procès-enquête qui va en fait durer pas moins de 8 ans. Ce 24 avril 1996, Shoko Asahara comparaît devant la cour criminelle de Tokyo. Barbu, cheveux noués en chignon par un ruban de soie, il garde les yeux clos et la tête haute. Il ne souhaite pas s'exprimer. Les procureurs du procès du siècle, comme l'écrivent les journaux, décrivent un homme qui justifie ses crimes de la façon suivante. Il a offert la chance aux victimes de se réincarner dans une vie meilleure. Un leader qui exigeait qu'on le considère comme un dieu vivant et qui se faisait appeler le saint pape. 17 chefs d'accusation sont énumérés, 27 meurtres de fidèles, actions violentes, extorsion de fonds. L'accusation annonce que plus de 12 000 preuves seront présentées lors des débats. Il apparaît que 9 mois avant l'attaque du métro, Asahara avait déjà lancé un commando chimique sur la petite ville de Matsumoto, près de Nagano, une commune qui lui était hostile. Le 24 juin 1994, du gaz sarin était diffusé dans les climatiseurs des habitations, une odeur âcre. 8 morts et plus de 500 blessés, des centaines d'animaux domestiques tués. La police soupçonnait Aoum, mais ne disposait d'aucune preuve. Pendant presque 8 ans, les experts, les policiers, les témoins, les familles de victimes, les avocats vont s'affronter pour déterminer les responsabilités de Shoko Asahara et de plusieurs responsables de la secte, parmi lesquels tous les terroristes du métro et l'ingénieur chimique ayant concocté le gaz sarin. Les avocats du guide suprême vont plaider la folie lors de ses apparitions devant la cour criminelle. Asahara va ainsi être de plus en plus déroutant, passant son temps à prier et à répondre aux juges par des psaumes bouddhistes. Totalement muet, au point d'avoir sans doute perdu la parole ou la raison, une parodie. De retour à la prison de Kosuge, l'accusé redevenait en effet subitement volubile, prêt à plaisanter avec les gardiens et affichant une belle joie de vivre. Le 27 février 2004, Shoko Asahara, tout comme la plupart de ses complices, est condamné à mort, peine qu'il appartiendra ou non à l'autorité judiciaire d'exécuter. Le gourou aveugle ne va pas échapper à la pendaison, mais avant cela, il va laisser un héritage empoisonné, au propre comme au figuré, un héritage qui va lui survivre. Le vendredi 6 juillet 2018, le gourou aveugle de la secte Aum, Shoko Asahara, de son vrai nom Shizuo Matsumoto, et 7 des 13 condamnés à mort du procès du siècle sont pendus dans l'enceinte de la prison de Kosuge. Comme le veut l'usage, les condamnés n'ont été prévenus qu'au tout dernier moment de leur exécution. Peu après le début des années 2000, un admirateur de Asahara, Joyu Fuimiro, avait repris les rênes de la secte Aum déclarée illégale. Le nouveau mouvement, baptisé Aleph, a officiellement renoncé à la violence, mais ne va jamais cesser de fédérer de nouveaux adeptes. Autour de 2000 environ aujourd'hui, ses responsables vont s'évertuer à répéter qu'ils n'ont aucun lien avec le gourou condamné à mort, sans vraiment convaincre. Peu après l'exécution d'Asahara, un membre d'Aleph foncera avec sa voiture dans un groupe de piétons blessant 8 personnes. Les cendres du maître de la secte Aum sont toujours entreposées dans une pièce secrète de la prison de Tokyo. Son épouse souhaite qu'elle soit dispersée en mer, mais une des filles de Shoko Asahara, elle-même adepte du nouveau mouvement Aleph, s'y oppose. Elle aimerait que les cendres de son père soient entreposées dans un temple érigé en sa mémoire, celle d'un dieu vivant.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.